carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Chers amis, bonjour. Après 9 années d'études et 3 années de travaux de restauration, le donjon du château de Vincennes a rouvert au public le 17 mai 2007. Sans lui, ce projet n'aurait pu voir le jour. Nous accueillons Jean Chaplot, spécialiste d'archéologie et d'histoire du Moyen-Âge. Monsieur Chaplot, vous avez réalisé les fouilles archéologiques. En quoi Vincennes reste l'un des châteaux les plus authentiques d'Europe? Et dans quel état avez-vous trouvé le donjon au tout début?
J'ai commencé à travailler il y a 15 ans au château de Vincennes après une carrière qui m'a conduit un peu partout dans le monde pour faire des fouilles, des études d'archéologie médiévale. Le donjon n'était pas en mauvais état il y a 15 ans. Il avait vieilli. Il a 6 siècles, et comme tous les monuments, il avait vieilli en surface notamment. Et puis sont apparus progressivement, dans les années 90, des problèmes d'instabilité, notamment des fissures.
Vous avez découvert des moments clés de la vie de Charles V à l'époque. Pourriez-vous nous parler de ce que le donjon nous apporte aujourd'hui comme témoignage de l'histoire?
Il y a plusieurs manières de faire l'étude des monuments, mais disons que nous avons 3 sources d'informations sur les monuments, quels qu'ils soient, les grands comme les petits au Moyen-Âge. Des sources écrites. Malheureusement, Vincennes est un édifice royal, j'aurai l'occasion d'en reparler, et nous avons, pour des raisons historiques, très peu d'archives sur les bâtiments royaux du Moyen-Âge en France. Les archives de la monarchie, les archives comptables notamment, tous les comptes de construction de ces châteaux, ont brûlé accidentellement en 1737. Nous avons une deuxième manière d'étudier les monuments, c'est de faire des fouilles. Aussi curieux que cela puisse paraître, on peut fouiller un monument. Par exemple, dans le cadre du donjon, qui fait 50 mètres de hauteur, qui est voûté, nous pouvons fouiller dans les voûtes, nous pouvons fouiller dans les murs pour étudier la structure, la manière dont ils sont construits. Et puis nous avons une troisième manière d'étudier un monument, c'est de faire son étude architecturale, c'est-à-dire de voir, d'identifier les pierres, savoir d'où elles viennent, identifier et analyser les mortiers et voir quelles sont les techniques de construction. Donc dans le cas de Vincennes, pour des raisons exceptionnelles, avec une continuité de pratiquement 15 ans, j'ai eu la possibilité d'étudier ce monument avec ses 3 aspects, ses 3 angles d'approche.
Alors qu'est-ce qui s'en dégage aujourd'hui? Qu'est-ce qui apparaît comme un événement?
D'abord, ce qui est un événement, c'est qu'on rouvre le donjon avec une présentation de 15 années d'études. Il arrive qu'on ait les moyens, que des gens comme moi, je suis directeur de recherche au CNRS, spécialiste d'archéologie d'histoire du Moyen-Âge, mes collègues étudient des monuments, des cathédrales, des grandes églises ou des châteaux. Mais il est rare qu'on puisse les étudier pendant 15 ans, d'une manière continue. On ne peut le faire que quand le chantier de restauration est très long, et souvent ce n'est pas le cas, on a souvent des chantiers de restauration d'un an, 2 ans, 3 ans, 15 ans de restauration, parce que là il y a beaucoup de choses à faire, pas seulement dans le donjon, mais dans l'ensemble du château. En plus, j'ai eu la chance, contrairement à mes collègues en général, d'être dans ce bâtiment qui appartient à l'État, hébergé avec l'équipe avec qui je travaille, dans le monument. C'est-à-dire pendant 15 ans, depuis 15 ans, nous sommes sur place, nous faisons nos fouilles, nous stockons le matériel archéologique sur place et nous l'étudions sur place. Ce sont des conditions de travail peu courantes. Ensuite, nous avons eu des moyens financiers importants pour faire des fouilles. J'ai dirigé 15 fouilles dans l'enceinte du château, dans le donjon, mais aussi dans l'enceinte du château. Certaines étaient des fouilles de petite taille, d'autres de très grosses fouilles avec de grosses équipes. Et nous avons eu des moyens importants pour le faire. Et donc, c'est un ensemble de conditions très, très peu courantes.
Comment se passe une journée de travail sur le site?
C'est très variable. Le plus souvent, quand j'ai fait des fouilles, il s'agissait de fouilles qu'on appelle préventives, c'est-à-dire liées à un projet d'aménagement qui allait modifier l'état du sous-sol. Donc, quand nous avons une fouille préventive, eh bien, nous sommes pris par la fouille préventive une semaine, un mois, 15 jours, ou plus. Quand il s'agit de faire l'étude d'archives, là, c'est simple. L'étude d'archives, je l'ai faite au départ. Quand on est formé à l'étude d'archives, étudier les archives d'un monument comme Vincennes, c'est l'affaire de quelques années à temps partiel. Et puis quand c'est terminé, c'est terminé. Par contre, quand il s'agit de faire l'étude architecturale du donjon est liée à la restauration. C'est la restauration qui me permet de voir la nature des fondations, la nature des murs. Donc là, c'est lié au déroulement du chantier. Donc une partie de mon travail, je l'organise comme je veux, l'étude d'archives, mais j'ai terminé depuis plusieurs années. Une autre partie dépend de contraintes externes.
Alors quand on trouve des détails nouveaux hein, par cette restauration, que vous l'analysez, vous en dégagez quoi? Quelles sont les grandes nouveautés, pour ainsi dire, qu'on découvre?
Il faut regarder le donjon, qu'on va ouvrir au public le 17 mai, mais aussi le château, parce qu'une partie de mon travail a consisté à étudier le château. Donc, on peut souligner quelques points. Quand on voit le château de Vincennes actuellement, le donjon et son enceinte, qui est une énorme enceinte, qui fait 6 hectares, la taille d'une petite ville médiévale, il n'y a rien d'antérieur au XIVe siècle, visible au niveau du sol. Or, nous savons que c'est un édifice royal créé à l'époque de Louis VII, vers 1178. Donc, nous avons déjà toute une partie de l'histoire, pratiquement 2 siècles de l'histoire du monument, qui nous échappe. Or, au XIIIe, XIVe siècle, c'est la principale résidence des souverains en Ile-de-France, après le palais de la Cité. Donc, quelle était cette résidence? Sa taille? Comment était-elle construite? Comment vivaient les gens autour du roi, quand le roi de France était là, Saint-Louis, au milieu du XIIIe siècle, ou Charles V, avant qu'il ne s'installe dans le donjon? Ils sont accompagnés de 100, 150, 200 personnes. Ils mangent, ils boivent. Comment vivent-ils? Nous avons très peu d'indications dans les sources. Donc, une des premières choses qu'apporte la fouille archéologique, c'est connaître les lieux antérieurs à ce qui est visible, ce qui est dans le sol, et connaître la façon dont on vivait dans ces lieux, notamment les déchets alimentaires qui nous permettent de connaître l'alimentation.
Quelle était la vie d'un souverain comme Charles V? Une journée, comment travaillait-il? Comment vivait-il? Est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes autour de lui?
Charles V est un souverain que nous connaissons finalement mieux que ses prédécesseurs pour différentes raisons. D'abord, parce que nous avons une vie de Charles V qui a été rédigée par Christine de Pisan. Christine de Pisan a rédigé la vie de Charles V au début du XVe siècle. Elle avait, je crois, 8 ou 9 ans à la mort de Charles V en 1380. Son père était un des physiciens du roi. Un physicien, ça veut dire un des médecins, d'origine italienne. Donc elle a écrit la vie de Charles V, 25 ans après la mort du roi, à peu près, mais d'après ses souvenirs personnels et ceux de sa famille. Et c'est la première biographie d'un souverain du Moyen-Âge que nous ayons rédigée par un contemporain, à part celle de Saint-Louis rédigée par Joinville. Mais à la différence de la vie de Saint-Louis par Joinville, qui date du début du XIVe siècle, un siècle plus tôt, Pisan connaissait très bien le souverain et nous donne beaucoup de détails sur son emploi du temps quotidien. Par ailleurs, les contemporains ont écrit, ils ont décrit les habitudes du roi et notamment l'organisation de sa journée. Ils ont dépeint ses habitudes, son intérêt pour l'architecture. Charles V est un roi qui s'intéressait beaucoup à ses bâtiments, à ses palais, qui suivait de très près ses chantiers. Et donc finalement, nous connaissons assez bien cet homme. C'est un souverain qui bougeait peu, contrairement à ses prédécesseurs, qui se déplaçait constamment. Lui est resté dans un rayon, disons, l'Île-de-France au sens large, avec la Normandie et une partie de la Bourgogne et l'Orléanais. Et puis, disons, l'Oise, ce n'est pas un souverain qui se déplace beaucoup. Il réside très souvent à Paris ou en Île-de-France, qu'il quitte rarement. Il a une journée relativement organisée, que Christine de Pisan décrit, que les contemporains décrivent. C'est-à-dire qu'il travaille le matin. Ensuite, il déjeune tôt, il se lève tôt. Il se lève tôt, il suit l'office. Puis ensuite, il travaille, il déjeune tôt. L'après-midi, il reçoit. Ensuite, il reçoit sa famille en fin de journée. Il écoute de la musique, il dîne. Et il se couche. Mais en gros, ses contemporains, Pisan notamment, expliquent qu'il divise ses journées en 3 x 8. 8 heures pour se reposer, 8 heures pour travailler, 8 heures pour se distraire. Et une grande partie de sa distraction, les contemporains nous le disent, c'est de regarder ses manuscrits et ses objets d'art ou d'écouter les musiciens. Charles V avait une énorme collection d'objets d'art. D'orfèvrerie, c'est une pratique de la famille des Valois. Et il avait aussi 1300 manuscrits à sa mort, dont des manuscrits magnifiques. Et donc, une partie de sa journée, il la passait à lire ses manuscrits.
Il était un fin collectionneur.
Bien sûr. Il avait certainement une des plus grosses bibliothèques, en 1380 à sa mort, avec 1300 manuscrits, il avait une des plus grosses bibliothèques d'Europe.
Peut-on revoir des manuscrits de l'époque?
C'est tout l'intérêt de Vincennes. Nous avons, avec le donjon, la seule résidence d'un souverain du Moyen-Âge qui subsiste. Les autres sont détruites, à Melun par exemple, ou remplacées par des constructions plus récentes à Fontainebleau, ou à Saint-Germain-en-Laye, ou à Compiègne. Donc nous avons le monument. Il a été construit en peu de temps. Il a été construit par Charles V, alors qu'il habitait le manoir capétien d'origine, qui est à 100 mètres du donjon, et il s'est installé dans son donjon en 1367, 2 ans avant l'achèvement. Donc il a suivi le chantier de très très près, tous les contemporains le disent. Donc la disposition des lieux, la dimension des pièces, tous ces problèmes traduisent ce que le souverain voulait, l'image qu'il voulait donner de lui vers son architecture, le cadre de vie dans lequel il voulait travailler, le décor qu'il voulait, notamment le décor religieux, qui tient une place très importante dans ce monument. Donc Nous avons aussi une chance extraordinaire, c'est que nous avons des textes qui nous indiquent comment était aménagé l'intérieur de sa chambre. Nous savons où étaient les meubles, où étaient ses manuscrits. Donc, c'est quelque chose de tout à fait peu courant. Et enfin, dernier élément, certains des objets qui sont décrits, qui étaient présents dans sa chambre, ont survécu. Nous avons notamment 11 manuscrits qui étaient dans sa chambre au deuxième étage du donjon et qui existent toujours, qui sont à la Bibliothèque nationale de France, à la bibliothèque du musée Condé à Chantilly ou à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris.
Revenons à l'architecture, à sa vision de l'architecture. N'était-il pas novice en la matière dans cette idée d'architecture de confort ?
Charles V est un souverain. Il n'a pas été éduqué et formé pour être un architecte. Mais Christine de Pizan, quand elle parle de lui, donc vers 1404, dit qu'il était architecte. C'est même une des plus anciennes occurrences du terme architecte dans la langue française. Et elle dit aussi qu'il était deviseur, c'est-à-dire capable de faire un devis. Elle veut dire par là qu'il était capable d'évaluer le coût financier de ses bâtiments et qu'il était géomètre, c'est-à-dire qu'il était capable d'apprécier les dessins qu'on lui soumettait. Donc, architecte, deviseur et géomètre, ce sont des qualificatifs qui n'ont jamais été employés pour un souverain au Moyen-Âge. Et donc nous savons par les contemporains de Charles V, en particulier ses proches, que c'est un homme qui s'intéressait de très près à ses bâtiments et qui consacrait beaucoup d'argent. Et de ce point de vue, c'est un souverain novateur. C'est le premier souverain du Moyen-Âge pour qui le bâti palatial, c'est-à-dire ses principales résidences comme Vincennes, doivent exprimer la majesté royale et la puissance de la dynastie. En gros, ce que François Ier fera à Chambord, ce que Louis XIV fera à Versailles, mais quelques siècles plus tôt. Les souverains antérieurs ne sont jamais crédités d'un intérêt pour leur palais. Ils construisent des palais, naturellement, ils construisent des châteaux. Philippe le Bel ou avant lui Saint-Louis en ont construit, naturellement, ou Philippe Auguste a construit le Louvre. Mais on n'a jamais dit que ces châteaux étaient des palais avec un beau décor. Un souverain du Moyen-Âge avant Charles V, Saint-Louis par exemple, tous les contemporains le disent, il donne de l'argent pour construire des églises, pas ses palais. Et de ce point de vue, Charles V est très novateur. Pour lui, l'architecture palatiale est une forme d'expression du pouvoir royal.
Comment gouverne Charles V à l'époque ?
Charles V est un roi qui introduit en France ce qu'on appelle l'État moderne, c'est-à-dire une façon de gouverner, qui est un phénomène général, qui a été étudié il y a une vingtaine d'années par une série de congrès internationaux organisés par mes collègues comme Jean-Philippe Genet, qui enseigne à l'Université de Paris 1. C'est l'État moderne, bon, c'est une notion qu'on peut, disons, décrire en quelques mots. C'est un État où le souverain gouverne en conseil, avec des techniciens, qui peuvent être des membres de sa famille, appartenir à la haute aristocratie, mais qui sont des techniciens. Techniciens des finances, techniciens de la diplomatie, techniciens de la guerre, souvent formés dans les universités, pour beaucoup d'entre eux. L'État moderne va de pair aussi avec l'idée de capital. C'est-à-dire que, même s'il y a des capitales de fait avant le XIVe siècle, au XIVe siècle apparaît l'idée même de la capitale comme lieu stable d'exercice du pouvoir. Donc Paris, naturellement, mais c'est l'époque aussi où l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles IV, qui était l'oncle de Charles V, qui avait été élevé à Paris, qui parlait français, décide que Prague sera la capitale du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique n'avait pas de capitale. C'est l'époque où les rois d'Angleterre considèrent que Westminster est la capitale du royaume. C'est l'époque où les Teutoniques construisent Marienburg, en Pologne actuelle, qui est la capitale de l'ordre teutonique. C'est l'époque où les papes construisent le palais des papes d'Avignon, capitale de l'État le plus moderne au point de vue administratif de l'Europe occidentale, la monarchie pontificale. Donc, pour Charles V, Vincennes, c'est le lieu d'exercice du pouvoir. La capitale administrative du royaume reste le palais de la cité. C'est là qu'est le Parlement, c'est là que sont les administrations, les archives. Vincennes, c'est la capitale politique. C'est là que le roi gouverne en conseil. L'une des caractéristiques de Charles V, c'est de gouverner en conseil. C'est-à-dire qu'il délibère avant de prendre des décisions. Et il prend des décisions après des enquêtes. C'est-à-dire que parfois, quand il a besoin de prendre une décision, par exemple, reprendre la guerre avec les Anglais en 1369, ou savoir quel est l'état des fortifications du royaume, il envoie deux hommes. En général, un prêtre, parce que les prêtres savent le latin et connaissent la comptabilité et savent écrire, et un laïc. Donc, par exemple, connaître l'état des fortifications en Normandie pour faire face aux Anglais, eh bien, on joint à un prêtre qui saura déterminer le coût, un homme de guerre qui, lui, saura apprécier l'état de la construction, ce qu'il faudra faire. Ces deux hommes vont en mission, le temps qu'il faut, reviennent à Vincennes, le roi les loge, ils écrivent un rapport Le rapport est examiné en conseil par l'ensemble du conseil royal, l'équivalent de notre conseil des ministres actuel. Le conseil délibère et décide de faire des travaux au château de Caen, au château de Rouen. On détermine le coût et on envoie une lettre aux officiers royaux responsables de la province de Normandie en leur disant ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on gouverne à cette époque.
Je vous propose, Monsieur Chapelot, de faire une petite pause de quelques minutes et nous reprenons tout de suite après.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert où, jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
Monsieur Chapelot, en quoi se différencie le château de Vincennes des autres châteaux ? Pour revenir au donjon, en quoi aujourd'hui on peut dire que le donjon est unique en lui-même ?
Vaste question. Bon, d'abord, il est plus grand que les autres. Hein, ça, c'est un premier problème. Il fait 50 mètres de hauteur, c'est le plus haut donjon qui existe. Ensuite, je l'ai dit, c'est la seule résidence d'un souverain du Moyen-Âge. Il a été construit à prix d'or, c'est-à-dire que le souverain a payé très cher sa construction, il l'a fait construire par de très bons maîtres d'œuvre, et il a fait faire un décor sculpté par de très grands sculpteurs. Donc ça aussi, c'est exceptionnel. Nous avons ensuite, bon ça c'est la volonté du roi, mais le hasard des siècles fait que nous avons à l'intérieur un décor, lambris, décor peint, qui a survécu, et qui est finalement le seul exemple d'un décor de ce type que nous ayons conservé en France. Donc voilà quelques-uns des éléments. Puis il y a ceux que j'évoquais tout à l'heure. Le fait que nous ayons des textes qui nous indiquent la disposition des lieux et les objets, et aussi que nous ayons certains des objets. La conjonction d'un monument de ce type conservé, de documents nous indiquant comment il était aménagé, et des objets qui étaient dans les pièces, c'est rarissime. Dans l'architecture palatiale et même castrale, dans tous les châteaux du Moyen-Âge, c'est rarissime. Alors c'est un monument qui est plus grand et plus compliqué. C'est pas la construction d'un petit seigneur, ou même les rois de France ont certains châteaux qui sont des châteaux comparables à ceux de l'aristocratie rurale de leur époque, où ils viennent en petit équipage quand ils chassent, par exemple. Là, c'est une résidence de travail et de gouvernement. Donc la disposition des lieux, la manière dont sont disposées les pièces, leur taille, correspond à ce que le souverain voulait pour travailler. Donc l'analyse architecturale qu'on peut faire d'un monument conservé qui a ce genre de fonction est forcément plus compliquée qu'une simple résidence d'un petit seigneur qui venait là avec sa femme, ses enfants et quelques serviteurs.
Dans quelles conditions se déroule la construction de ce donjon ? Est-ce que l'époque a aidé ou pas ?
L'époque a à la fois aidé d'une certaine manière et en même temps va à l'encontre du projet. La construction commence en 1361. La construction du donjon, elle se finit en 1369. Elle commence en 1361 au moment où Jean le Bon, qui a été fait prisonnier sur le champ de bataille de Poitiers en septembre 1356, vient d'être libéré. Donc il arrive à Paris en décembre de 1360 et au début de 1361, l'année suivante, il prend toute une série de mesures de réorganisation du royaume. Il a perdu la moitié de son royaume au traité de Brétigny. Il doit payer une énorme rançon pour sa libération. Rançon qui ne sera d'ailleurs jamais complètement payée. Donc quand Jean le Bon entreprend le chantier de construction du donjon, il veut en faire une résidence fortifiée qui le mette à l'abri des risques. Soulèvement de Paris avec Étienne Marcel, soulèvement des Jacques, les paysans de l'Île-de-France en 1358, raids anglais qui ont été constants autour de Paris dans ces années. Donc c'est clair, il y a une volonté qui se comprend très bien. Le problème, c'est qu'il manque d'argent. Donc il meurt très vite en 1364, son fils Charles V le remplace, et reprend le chantier, le conduit très très vite. Mais quand il achève le donjon en 1369, nous sommes dans la pire période financière pour lui. Il n'a plus d'argent à cette époque, il est obligé de pratiquer des emprunts forcés sur son entourage pour vivre, pour entretenir son hôtel, c'est-à-dire son entourage. Donc il a à la fois construit, son père et lui ont construit un monument dont on comprend très bien la fonction, dans une période troublée de la guerre des Cent Ans, mais en même temps, ils l'ont construit de manière somptuaire, énorme, bien décoré, etc., ça leur a coûté beaucoup d'argent, alors qu'en principe, ils n'auraient pas dû le faire. Donc ils n'ont pu le faire qu'avec une organisation extrêmement rigoureuse, financière et de chantier. Alors en même temps, il y a des éléments qui permettent de construire ce monument. Ces années 1360 sont des années de peste, sont des années de guerre, où beaucoup de la population rurale est réfugiée à Paris. Donc on peut trouver très facilement une main-d'œuvre à bon marché pour creuser les fossés ou pour transporter la pierre. Donc, notamment, le creuser les fossés, à cette époque, les fossés du donjon sont énormes. Ça représente un très gros cubage de terre. C'est une manœuvre non qualifiée. Et c'est souvent une manœuvre féminine ou enfantine qui remonte la terre. Les hommes creusent, et les femmes, et les enfants remontent la terre. La construction, c'est une construction énorme, mais en même temps, ce sont des pierres qui font 80 cm de longueur en moyenne, un pied, c'est-à-dire une trentaine de centimètres de hauteur. Donc c'est un jeu de construction. Il faut beaucoup de monde en carrière pour approvisionner le chantier en pierre. Il faut quelques tailleurs de pierre pour tailler la pierre, mais le reste, c'est un problème de main-d'œuvre non qualifiée. Donc une période de crise comme celle-ci, permet d'avoir, comme celle des années 1360, permet d'avoir une main-d'œuvre non qualifiée.
Revenons au témoignage du donjon. À ces époques de prisonniers, d'incarcération, le donjon a vu passer des personnalités. Est-ce que c'était une prison de VIP ?
Alors, le donjon a été occupé par les souverains jusqu'au XVe siècle. Le dernier souverain qui l'a occupé, c'est Louis XI. Charles IX l'a occupé après la Saint-Barthélemy en 1572. Il l'a occupé quelques années. Il est mort d'ailleurs dans le donjon en 1574. Mais dès l'époque de Charles IX au XVIe siècle, le donjon devient une prison. Les souverains habitent à Vincennes, mais dans l'enceinte, et ils habitent dans des pavillons de plein pied qui correspondent à l'idéal architectural du XVIe siècle. Le donjon est quand même un monument un peu austère. Et donc, à partir de ce moment-là, le donjon est très pratique pour en faire une prison, parce qu'il a des murs qui font 10 pieds d'épaisseur, 3,26 m, des fenêtres qui sont grandes, mais qui ont été munies de barreaux, donc c'est très bien pour faire une prison. Mais on ne met pas n'importe qui dans la prison. Donc, au XVIe, XVIIe, en général, on met à Vincennes des généraux faits prisonniers sur le champ de bataille, donc compte tenu des types de guerre de cette époque, en général des Hollandais ou des Espagnols, ou des Anglais parfois. Et puis dès le XVIIe apparaissent des prisonniers, disons, royaux de différentes natures. Donc Lavoisin, celle de l'affaire des poisons, le surintendant Fouquet, qui a d'abord été emprisonné à Vincennes, et puis les grands seigneurs révoltés de la Fronde, donc le cardinal de Retz, le grand Condé, le duc de Longueville, Conti, etc., sont emprisonnés, mais ils sont emprisonnés avec leurs femmes, qui vont rester pendant, par exemple, le cardinal de Retz était dans la chambre du roi au deuxième, avec tout son personnel, son chapelain, son médecin, son cuisinier, il occupait l'étage entier. Le duc de Longueville était là avec sa femme, il est resté 3 ans, sa femme a couché 3 fois. Pendant les 3 années de captivité. Au XVIIIe, la situation change, parce que d'abord, on a des fin XVIIe, début XVIIIe, on a des prisonniers, si vous voulez, religieux, notamment des jansénistes, dont certains qui sont restés des décennies dans le donjon. Et puis, on commence à voir apparaître des grands seigneurs emprisonnés à la demande de leur famille, pour les soustraire à la justice royale, ou des philosophes, comme Diderot. Donc au XVIIIe, nous avons emprisonné à Vincennes Diderot, qui fait rester là pendant 3 mois, dans l'été de 1749. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau viendra le voir, ce qui nous donne une page célèbre des confessions de Rousseau, où Rousseau raconte sa visite à son ami Diderot. Ensuite, on va emprisonner à Vincennes des hommes comme Mirabeau. Et là, c'est une lettre de cachet du roi à la demande du père de Mirabeau, pour le soustraire à la justice royale qu'il avait condamné à mort. Pour rapt, il avait enlevé la jeune femme du président du Parlement de Besançon, et il avait été condamné à mort pour cela. Et puis on emprisonne aussi Sade. Sade est emprisonné à la demande de sa famille aussi. Donc ce sont des prisonniers qui ont le droit de visite, qui ont le droit de recevoir du courrier, d'envoyer du courrier, qui reçoivent des livres, énormément de livres. Sade reçoit énormément de livres. On a des lettres où il explique, il demande combien on voit des livres en quantité. Ce sont des prisonniers qui écrivent beaucoup. Sade a écrit pendant sa captivité à Vincennes la première version de Justine, dont le manuscrit autographe qu'il a rédigé dans sa captivité à Vincennes est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal. Mirabeau a écrit à Vincennes je ne sais plus combien d'ouvrages, il est resté emprisonné 5 ans, il a écrit de mémoire 5 ou 6 livres pendant sa captivité. Donc il n'y a jamais eu beaucoup de prisonniers au XVIIIe siècle. Mais c'est à la fois une prison un peu particulière, mais ça ne veut pas dire que c'est une prison où les conditions de vie sont forcément très bonnes.
Il n'était pas très malheureux quand même.
Non, je pense quand même qu'il ne faut pas exagérer, ce n'était pas une prison agréable. Et en particulier, nous avons les lettres de Sade et les lettres de Mirabeau qui sont conservées, qui expliquent les conditions de détention, malgré leur caractère aristocratique, malgré le fait qu'ils pouvaient se faire livrer beaucoup de choses de l'extérieur. Les conditions de détention n'étaient pas très faciles. Et certains prisonniers moins célèbres du XVIIIe siècle, qui avaient été emprisonnés pour des raisons politiques ou autres, avaient des conditions de vie relativement difficiles. Puis c'est jamais très agréable de passer 6-7 ans enfermé dans un donjon. Alors certains avaient le droit de sortir, ils étaient prisonniers sur parole. Ils avaient le droit de sortir dans la cour du château. Certains avaient même le droit de chasser dans le bois, mais ce ne sont pas des conditions générales. Les conditions sont très, très variées, selon les périodes, selon les statuts et les raisons de l'emprisonnement.
Nous sommes à la veille donc de la réouverture du donjon. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Dans quel état êtes-vous d'appréhension par rapport à cette réouverture ? C'est quand même un événement.
Bien sûr, c'est un événement. Mais l'ouverture, j'ai fait un projet à la demande du ministre de la Culture d'aménagement intérieur du donjon. Le ministre de la Culture, Renaud Denedieu de Vabre, a créé un comité scientifique d'experts européens pour l'examiner. J'ai fini ce travail de conception il y a un an et demi, et le Centre des Monuments Nationaux, qui est un établissement public du ministère de la Culture, qui est en charge de l'accueil du public dans les monuments appartenant à l'État, est responsable de la muséographie. La muséographie, ce n'est pas mon problème. Donc, pour moi, voir le donjon ouvrir au public est l'achèvement d'une étape, parce qu'il avait été entendu dès le départ, quand nous avons commencé l'étude, que toutes les fouilles que nous ferions, des dépouillements d'archives, et l'étude architecturale servirait à alimenter un musée de site. Donc, il est très intéressant pour un chercheur, comme moi, d'avoir pu travailler dans le monument pendant la longue durée, et puis de voir se terminer son travail. Pas comme d'habitude. D'habitude, quand nous faisons un travail, nous faisons des articles dans des revues scientifiques, des livres, etc. Mais il est rare qu'on ait la possibilité d'exposer au grand public les résultats de nos travaux. Donc, de ce point de vue, pour moi, c'est très bien. C'est un travail remarquable. Mais actuellement, ce n'est qu'une étape, parce que nous ouvrons le 17 mai le donjon, mais nous avons à restaurer les bâtiments qui sont autour du donjon, millimètre carré. Cette restauration commencera à la fin de l'année 2007. Elle va durer probablement 2 ans. Et donc, en 2009, nous ouvrirons ces millimètres carrés qui, eux, seront consacrés à l'histoire du château de Vincennes, dans son ensemble, du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc, mon travail n'est pas terminé. J'ai encore à collaborer à ce travail de muséographie, à partir des travaux de fouilles et d'études d'archives que j'ai faits. Et puis, j'ai encore énormément de choses à publier, parce que 15 ans de recherche, c'est énorme. On a publié sur Vincennes à peu près 8000 pages actuellement de rapports, d'ouvrages imprimés et d'articles. En 15 ans, 8000 pages. Beaucoup de rapports. On fait beaucoup de rapports de fouilles, de rapports d'architecture. Donc ça paraît énorme, 8000 pages. C'est sans doute un des édifices sur lesquels on a le plus travaillé en Europe et le plus publié. Mais ce n'est qu'une petite partie du travail qui reste à écrire.
Le travail ne s'arrête pas là et nous vous souhaitons bon courage pour la suite et nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé donc à cette émission. Si vous désirez en savoir plus, je vous conseille de vous rendre dès le 17 mai prochain au château de Vincennes voir le donjon et je rappelle que vous pouvez télécharger notre émission gratuitement sur le site canalacademy.com.